très grande satisfaction après ce que j'avais vécu. Et puis, je suis devenu un loyal défenseur des résultats du NAM. Et là, je suis rentré dans l'ordre. Puisque, hein, je pense qu'on est, tout le monde d'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais en fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Même les gens qui ont mis en place le traité de Lisbonne, le retournement, de ce nom au traité constitutionnel européen, c'est le début de la fin de la démocratie en France. Et je me suis bien adapté. En 2008, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Après la démocratie ». Donc j'ai tiré des enseignements, non pas tellement du référendum, mais de ce que les gens en avaient fait. Alors, comment dire ? Le référendum, moi, c'est comme toujours, ces textes européens, ils sont très confus, ils sont remplis de trucs. L'obscurité, d'ailleurs, fait partie du système européen ou de progression de l'Europe. Pour moi, ce qui est important dedans, honnêtement, j'ai écrit à Saint-Pierre pour me faire mettre à jour, hier matin dans la fièvre. Ça ajoutait à la liberté de circulation du capital, qui date de l'acte unique de 1986, et à la monnaie unique, avec indépendance de la banque centrale, qui date de 92 pour le vote et de la réalisation 99-2001, ça ajoute, ça parachève avec l'idée que le libre-échange doit être ouvert à l'extérieur de l'Union. C'est-à-dire que les règles du libre-échange, c'est plus le libre-échange simplement sur le marché intérieur, c'est vers l'ouverture. Donc, le traité de Lisbonne étant passé, ou son esprit, puisqu'il a été complété plus tard, c'était, ça nous a fait atteindre le moment, je dirais, d'achèvement de la version ultralibérale du projet européen. Situation dans laquelle l'État avait perdu toute souveraineté économique. Et où donc l'État français, mais pas que l'État français, s'était en situation, d'impuissance radicale. C'était l'achèvement du rêve, si on peut dire, post-national. C'est comme ça. En fait, ce que je vais essayer de faire là, c'est... Je ne suis plus très militant. Je suis redevenu... je milite depuis 1992, avec les résultats que l'on sait. Nul, pour le moment. Et donc je suis un peu fatigué, je suis redevenu historien, et donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de décrire ce qui s'est passé depuis, ce que ça signifie, et je terminerai quand même sur des perspectives pas si désastreuses que ça, et peut-être même par un conseil de citoyen. Mais ce que je vais vous présenter est plutôt une sorte de vision d'historien de ce qui s'est passé depuis. Alors d'un autre côté, dans un monde où les élites, les classes supérieures, politiques, journalistiques, etc., vivent dans une réalité parallèle, sont totalement déconnectées, ça a déjà été dit, mais c'est vraiment, je crois, le moment de dire que présenter une description réaliste des faits est un acte révolutionnaire en soi. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Alors, je reviens quand même sur les résultats de ce recensement, peut-être d'autres de ce recensement, pardon, des formations professionnelles, de ce référendum, qui est vraiment... Le non est passé avec une majorité de 55%, c'est tout à fait extraordinaire. Le chiffre le plus spectaculaire dans le résultat, c'est le 81% contre des ouvriers. C'est tout à fait extraordinaire. Quand on est habillé au sondage de bureau, voir une classe sociale voter contre à ce niveau-là, c'est tout à fait exceptionnel. 60% contre pour les employés, 55% pour les artisans petits commerçants, 54% pour les professions intermédiaires. Les deux seuls groupes qui ont voté oui, c'est bien entendu les cadres et professions supérieures, qui étaient... dans mon souvenir, à 35% non, et les retraités. c'est intéressant parce que les cadres sup, en tout cas ceux qui ont de l'argent, pas les jeunes cadres sup appauvris, et les vieux sont maintenant toujours la base sociologique de ce qu'on appelle le bloc central. Donc on est confronté à une sorte de préfiguration de ce qui venait. Avec, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter une constatation un peu déprimante. Les plus de 65 ans représentaient au moment du vote 16% de la population. Maintenant, ils sont à 22%. L'ancien directeur de l'INED, François Héran, qui a eu très peu de bonnes idées dans sa vie, peut-être une, avait décrit, dans un moment d'inspiration, l'augmentation du nombre des vieux dans la population française comme une immigration incontrôlée. Il disait, le problème, c'est pas les musulmans, c'est pas les arabes, c'est pas les africains, c'est ces vieux qui sortent de partout, de l'intérieur de la société française. J'avais trouvé ça absolument génial. Je l'avais cité dans Qui est Charlie. Alors ça lui a fait très peur d'être cité positivement par moi dans Qui est Charlie. Donc ensuite, il était lancé pour dire que j'étais un sale type. Je trouve ça dommage, la seule bonne idée qu'il ait jamais eue, il l'a renié. Alors, pour moi, honnêtement, le vote, ce vote non disait simplement clairement que les Français en avaient assez de la construction européenne. Au-delà des détails, des choses, ils en avaient assez. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant sociologiquement, c'est la façon dont la population, le peuple français, comme on dit, n'a pas été capable de s'opposer au traité de Lisbonne. C'est-à-dire que le résultat du référendum a été d'une clarté incroyable, la volonté des citoyens a été extraordinairement bien exprimée, et en fait, la société n'a pas moufté. Et en fait, cette annulation du traité, son contournement par le traité de Lisbonne, c'est triste en soi, bien entendu, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui a donné la confiance aux gens d'en haut. C'est-à-dire l'idée qu'on était capable de s'asseoir sur un référendum sans réaction de la population, c'est ça la vraie sortie de la démocratie, et ça montre que c'est pas seulement les gens d'en haut qui sont responsables. C'est pas seulement les gens d'en haut. Il y a quelque chose dans l'évolution historico-sociologique du pays, mais qu'on retrouverait dans toutes sortes d'autres pays. Là, je parle de la France, mais pour moi, la France n'est qu'un point d'application d'une dérive générale antidémocratique de toutes les sociétés occidentales. Je veux dire, c'est souvent... Alors, je sais pas si je vais faire quand même le vieux prof qui cite tous ses livres. Je vais faire plaisir. Donc j'avais cité Après la démocratie, et puis ensuite j'ai écrit, longtemps après, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, qui est une réflexion, en fait, sur cette incapacité de la société à se défendre contre une idée européenne dont elle ne veut plus, en fait. Il y a un moment de passivité. Alors, je dis fondamentalement, pour moi, ce qui... a fichu en l'air le fonctionnement démocratique, c'est ce que j'appelle la nouvelle stratification éducative. C'est-à-dire, la démocratie qui fonctionnait, c'était tout le monde sait lire et écrire, et très peu de gens ont une éducation supérieure ou un équivalent. Et ça donne un sentiment égalitaire, et ça veut dire que les gens d'en haut, s'ils veulent parler à quelqu'un, doivent parler à tout le monde. Et puis, il y a eu le développement de l'éducation supérieure, avec des masses d'éduqués supérieurs qui commencent à se penser supérieurs, qui vivent entre eux, et puis qui se séparent, je dirais, du reste de la société. C'est une vision qui est acceptée maintenant par la plupart des sociologues, et en tout cas par tous les sondeurs d'opinion. Mais il faut bien voir que cette élévation du niveau éducatif différentiel a fait exploser tous les cadres de la démocratie. Ça fait exploser les partis, ça fait exploser les syndicats, ça fait exploser toutes les organisations démocratiques. En fait, la chose la plus importante que ça fait exploser, c'est le cadre religieux et post-religieux qui était la matrice de la vie démocratique. L'idée d'une matrice religieuse de la vie démocratique, je n'ai pas regardé ce que vous a dit Gauchet en vidéo, je ne sais pas de quoi il a parlé, mais je veux dire, cette idée qu'une matrice religieuse est à la source de la démocratie, même dans les pays laïcisés, sécularisés, etc., c'est une idée qui, certainement, nous est commune. Donc, en fait, ce que la disparition de tous ces cadres collectifs a créé, c'est un état d'atomisation sociale généralisée, d'individus isolés, et avec ce paradoxe ultime qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est que, bon, l'individualisme, d'après 68, nous disait que libéré de toutes ces cas, de toutes ces idéologies absurdes, communisme, gaullisme, enfin tout ce qu'on veut, social-démocratie, enfin l'immense individu allait apparaître dans toute sa splendeur. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'individu libéré de tous ces cadres, rapetissait, diminuait, devenait petit, influençable, mimétique, et incapable de s'organiser. Jamais, pour ce qui me concerne, garder un fond léniniste de valorisation du parti, de l'organisation et de la discipline de parti. On ne se refait pas. Hein. Voilà. Donc c'est mon gratisme personnel. Alors, et c'est tout ça qui explique l'incapacité, de la société à réagir. C'est un trait structurel, en fait, qu'on vient de revérifier. Regardez, je n'ai jamais de ma vie voté pour le Rassemblement National. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire comprendre qu'on pouvait aimer son pays, défendre sa nation, sans être idéologiquement proche du Rassemblement National. Mais quand même, la façon dont Marine Le Pen a été éjectée, ou semble être en cours d'éjection, nous verrons le résultat final des courses, comme candidate du Rassemblement National, par des juges venus, dont CESU, pour des affaires qui sont qualifiées de corruption, mais qui honnêtement me semblent tout à fait mineures, surtout si l'on sait que l'Europe, en tant que système institutionnel, est une gigantesque machine à corrompre. L'Europe, c'est un truc fait pour distribuer des subventions, et en vérité, si vraiment on voulait une politique, honnête et nationalisée, on ferait l'inventaire de toutes les subventions de l'Europe qui vont vers les universitaires, vers les associations, vers les syndicats aussi, toutes sortes de choses qui sont considérées comme licites. Donc il y a quelque chose de complètement ridicule, complètement scandaleux, de nature de coup d'État dans l'élimination en cours de Marine Le Pen. Mais de nouveau, absence de réaction. C'est-à-dire que à nouveau, c'est une autre étape, à nouveau, la réaction est amorphe. C'est-à-dire que la structure amorphe de la société, qui ne réagit pas, est toujours là. Et donc les choses sont passées. Alors, les choses continuent d'être intéressantes ensuite. Donc là, c'était le passage le plus déprimant. Ça va ? Vous tenez le choc ? Vous tenez le choc ? Bon, ce soit le déprimant. C'est que quand même, les électeurs ayant été maîtrisés, les classes supérieures ayant réussi leur coup, là je voudrais faire une petite incise sur le caractère paradoxal de la situation qui s'est créée, parce que ce qu'ont obtenu les classes dirigeantes, la victoire des classes dirigeantes sur le peuple français, c'était d'arriver à elles-mêmes se déposséder de leur capacité d'action. Donc en fait, la victoire des gens d'en haut était un suicide des gens d'en haut en tant que dirigeants de leur pays. Vous voyez, c'est pas ce qu'on dit généralement. Généralement, le modèle de base, c'est les gens d'en bas sont opprimés, les gens d'en haut sont des exploiteurs raisonnables, et ils font ce qu'ils font, ils nous entubent, pour rester polis, d'une façon qui a un sens. Non, là, ils nous ont entubés, mais pour se suicider en tant que classe dirigeante. C'est très intéressant. Depuis que j'ai travaillé sur les conséquences ultimes de la disparition des valeurs religieuses et l'apparition du vide métaphysique, l'émergence du nihilisme, c'était dans mon dernier bouquin, je suis désolé, je continue à citer mes livres, c'est lamentable. J'utilise ce concept de nihilisme, et de plus en plus, je me rends compte que la vérité de l'ultralibéralisme, c'est pas un truc rationnel, la vérité de la construction européenne, ce projet de faire disparaître les nations, ça contient, au-delà des arguments économiques, des arguments moraux extraordinaires sur l'homme universel, ça contient, il y a un élément nihiliste de destruction des cadres de la vie sociale, d'une recherche du néant dont sont porteuses les classes dirigeantes. Alors, ça reste intéressant ensuite, et je dirais, même si c'est désagréable pour les gens qui vivent réellement, ça devient moins pénible pour les analystes, retraités et disposant d'une retraite suffisante. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Priver le peuple de son pouvoir, dire que les nations n'existent plus, et pas simplement la France, ça n'est pas réussir à faire qu'elles n'existent plus. Donc en fait, on obtient toutes les conséquences pratiques catastrophiques de ce succès, de l'abandon de la capacité de l'État à gérer, diriger la société et faire des choses intelligentes et bénéfiques à la population. Donc les années qui ont suivi le traité de Lisbonne, mais ça n'est pas que le traité de Lisbonne, c'est une dynamique générale, c'est la monnaie unique, la banque centrale, enfin c'est une totalité. Donc depuis, qu'est-ce qu'on a vécu? Les années 2009, etc., ça a été la destruction de l'industrie, ou ce qu'il en restait, la chute du niveau de vie, avec un INSEE qui commence à tripatouiller ses indicateurs de prix pour que ça n'apparaisse pas. À partir de 2011, on a la chute de la fécondité, parce que les jeunes ne peuvent plus se loger, et des choses comme ça, et qu'on ne peut plus faire de politique du logement. 2011 aussi, maintenant, on est en train de s'en rendre compte, c'est le début de la hausse de la mortalité infantile, sur l'ensemble du territoire. Tout n'est pas négatif. Le côté non-violent ou atomisé, paisible, la société se manifeste, le taux de suicide s'effondre. Est-ce sous l'effet des neuroleptiques? On ne sait pas trop. Le taux d'homicide baisse. Je sais qu'on est censé vivre dans une société de plus en plus violente. Mais la vérité, c'est qu'entre 1995 et 2020, le taux d'homicide est tombé de 2,5 pour 100 000 habitants à 1. Grosse division. Il est remonté à 1,5 à 2023. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des reportages terrifiants sur Marseille. Hein, on avait parlé sur Marseille, etc. Où effectivement, en 2023, le taux d'homicide était de 4,1. Mais 2024, alors que tout le monde s'agite, il est tombé de 24%. Donc c'est dans ce contexte qu'on compte construire des prison en Guyane, pour y faire je ne sais quoi. Alors, c'est la période aussi, quand même, on a vu cet événement très rassurant pour moi, en 2018-2019, qui est la révolte des Gilets jaunes, qui est belle en elle-même, mais qui a surtout montré que la culture française n'était pas morte. Que la dimension égalitaire de la culture française, la capacité à dire « merde » aux gens d'en haut, si les choses étaient suffisamment graves sur le plan de la survie économique, cette capacité était toujours là. Donc c'était quand même quelque chose de rassurant. Mais dans l'ensemble, ce qui s'est fabriqué dans ce pays qui s'était privé des instruments de la souveraineté économique, je dirais, c'est une société grotesque. La société d'après Lisbonne est une société grotesque. Des présidents de la République de plus en plus ridicules. Honnêtement, chaque fois, avec chaque fois, moi j'ai trouvé une loi. Il faut toujours être capable d'imaginer que le suivant est pire. Sarkozy, Hollande, Macron, je vous laisse imaginer la suite. Hein? Un système politique bloqué, avec trois blocs, qui ne se parlent plus, le bloc central dont on parlait, le Rassemblement national et LFI. Et je dois dire que personnellement, je considère comme responsable du blocage autant LFI, le Rassemblement national, que le bloc central. Ils se mettent à trois pour que ça ne bouge pas. Ils se mettent à trois pour que ça ne bouge pas. Il suffirait que deux s'allient pour que ça bouge. Mais ils ne veulent pas que ça bouge. Donc il y a Et alors, c'est un monde où on parle. Alors qu'on est en train de perdre ce qui nous reste d'industrie, qu'on ne peut pas réindustrialiser, et ben de quoi parle-t-on? On parle d'insécurité, on parle d'islam, on parle de retraite et on parle de dette. C'est-à-dire une sorte de gestion complètement négative de vie sociale, où l'idée même d'un projet positif n'a plus de sens. On éponge, on essaie de répartir des déficits, on désigne des boucs émissaires. Je veux dire, j'ai un peu participé. Moi, je ne suis pas trop dans partisan de la désignation des musulmans comme bouc émissaire. Peut-être j'ai eu un peu tendance à désigner les vieux comme responsables, ces immigrés de l'intérieur, ces immigrés qui viennent de nous-mêmes. Et puis, c'est un monde vraiment qui n'est pas que grotesque, qui, dans certaines dimensions, devient immonde. J'avais évoqué un taux d'homicide, c'est-à-dire de la violence de sang, la violence la plus dure, je ne parle pas des incivilités, qui en fait tendanciellement était plutôt en baisse. Mais dans cette période, entre 2000 et 2022, je crois, le nombre d'incarcérés dans les prisons est passé de 52 000 à 82 000. Alors, il faut bien voir que les gens qui sont dans les prisons, c'est des jeunes. Et les gens qui les enferment sont des vieux. Donc la question de l'affrontement des générations. Et comme il n'y a que 62 000 places dans les prisons, j'aimerais ajouter que l'incapacité du gouvernement ou l'abandon par le gouvernement de toute politique du logement, qui seul pourrait relancer la fécondité, s'applique aussi aux prisons. On peut voir l'absence de places dans les prisons comme un élément de l'absence de politique du logement. Hein? Je veux dire, qu'ils soient libres ou enfermés, les jeunes sont mal logés maintenant. Il y a une certaine logique dans ce système. Alors, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse parler de ce qui s'est passé ces années quand même, et de le fait qu'on soit tétanisé, simplement en pensant en termes de dynamique interne de la société. Parce que l'Europe est devenue. En fait, on compare toujours l'Europe à une usine à gaz, mais ce n'est pas très sympa parce que certaines usines à gaz fonctionnent parfaitement. Donc c'est encore pire que ça. Mais l'Europe, c'est le système qui n'arrive pas à résoudre les problèmes, les chocs externes, parce que c'est trop complexe, etc. Mais en fait, on vit dans les chocs externes et qui arrivent et qui font, je dirais, partie du processus pas d'atomisation, mais qui contribue à la passivité des populations qui courent de choc en choc et des chocs de plus en plus incompréhensibles. Donc, entre l'acceptation du traité de Lisbonne et sa mise en application, 2007-2009, on a eu 2007-2008 la crise financière. La crise financière qui a été en Europe un truc très particulier, qui a signifié la prise du pouvoir par l'Allemagne en Europe. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vu que l'Allemagne était le seul pays qui avait les moyens, les surplus, pas les surplus budgétaires, hein, les surplus en termes de commerce extérieur, les surplus pour agir. Mais avoir du fric dans un contexte européen, qui est un contexte en vérité de corruption généralisée, c'est la possibilité de manier des petits États clients, etc. Donc l'Allemagne a pris le pouvoir en Europe et on est entré dans ce monde. Ça, c'est l'entrée, c'est la sortie de réalité. Donc vous allez, vous ouvrez les chaînes de télé françaises, et donc vous allez type voir l'Europe, 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 l'Europe. En fait, c'est l'Europe faunée de l'Allemagne, toujours. Et ce qu'on vit, c'est, dans les années 2000, des prises de décision solitaires, inconséquentes, pour les autres et pour elles-mêmes, de l'Allemagne. 2011, c'est la sortie du nucléaire, décision d'Angela Merkel. Hop ! Pénurie nucléaire, pénurie énergétique en Europe. 2015, c'était l'afflux d'immigration en Allemagne, sans consulter personne. Un an avant, il y avait eu l'irruption de l'Europe en Ukraine et la mise sous contrainte de l'Ukraine de choisir entre l'Union européenne et la Russie, amenant au coup d'État de Maïdan, opération dans laquelle j'ai suffisamment mis en évidence le rôle des Américains dans mon dernier bouquin, et peut-être pas tout à fait assez quand même celui de l'Allemagne, qui était derrière tout ça. Maïdan, c'est aussi... Voilà, donc c'est vraiment... on est rentré dans ces systèmes, c'est pas simplement qu'on a été paralysé, qu'on est rentré dans une Europe qui était incapable de réagir aux défis venus de l'extérieur, on est aussi rentré dans une Allemagne qui était contrôlée par quelqu'un d'autre, et une grande partie du mensonge des élites françaises, c'est de dire « l'Europe fait ceci, l'Europe fait cela », alors qu'en vérité, c'est l'Allemagne qui fait ceci et l'Allemagne qui fait cela. C'est pour ça que j'ai tenu à souligner au début quand même ma bienveillance vis-à-vis de l'Allemagne, qui m'a mené à voter oui au traité. Mais ce que je constate maintenant, rétrospectivement, c'est que toutes mes erreurs géopolitiques ont résulté de moments d'ivresse bienveillante dans lequel j'ai décidé de faire confiance à l'Allemagne. Je pourrais dire dans mon dernier bouquin aussi, c'était Scholz, je veux dire, ben l'Allemagne... sympa, elle ferait pour la guerre. Hop, on touche Friedrich Merz, là, qui veut balancer des missiles Taurus sur Moscou. Hein ? On n'est jamais déçu avec l'Allemagne. Alors, qui est quand même au cœur du suicide énergétique de l'Europe et de ce qui se menace maintenant, c'est d'une volonté... de guerre sans fin. Alors, comment dire ? Ensuite, pour qu'on soit bien avec le chaos, il y a eu 2019 le Covid, bien entendu. Encore un chaos, le Covid ne me semble pas par nature favorable à l'épanouissement de la contestation démocratique. Ça a été quand même une belle occasion d'enfermer tous les jeunes pour sauver les gens comme moi. Alors qu'on aura dû nous enfermer, nous, et nous obliger, nous, à nous vacciner, en laissant les jeunes vivre leur vie. Et puis le dernier choc, en 2022, c'est la guerre d'Ukraine. C'est la guerre d'Ukraine qui est un choc externe que l'Europe gère comme elle le gère, c'est-à-dire n'importe comment, et en allant vers la défaite. Alors, nous avons, les résultats de tous ces événements, c'était une sorte de dissociation de plus en plus grande du projet européen tel qu'il était présenté et d'une réalité. Le projet, c'était, comment appeler ça, le paradis terrestre, la disparition des nations, fusionner dans une nation nouvelle, l'enrichissement. Ce qu'on a eu, c'est un appauvrissement interne et surtout une dynamique de montée des inégalités entre nations, une mise en hiérarchie des peuples de l'Europe. Et à mesure, je pense que l'un des phénomènes auxquels on est confronté maintenant, c'est que à mesure que le désespoir s'installait dans ces groupes dirigeants qui avaient voulu ça, qui avaient organisé ça, une dynamique positive interne, projet pour le continent, a été remplacée par une dynamique d'expansion vers l'extérieur. C'est-à-dire, si vous avez peur de ce que vous faites, si vous n'êtes pas content de vous, alors là, vous êtes motivé pour l'imposer à vos voisins, pour vous rassurer sur la valeur de ce que vous faites. Pour moi, c'est le grand sens de la guerre d'Ukraine, en fait. C'est une expansion qui est censée remplacer les rêves de succès intérieur de la construction européenne. Mais je reviens là-dessus. Au départ, il y a quand même ce mystère initial, parce que ça va être important dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, d'un traité de Lisbonne parachevant l'acte unique, le traité de Maastricht, un système d'auto-dépossession de nos dirigeants. C'est-à-dire que dès le départ, une volonté d'auto-anéantissement des classes supérieures était manifeste. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que défendre les classes dominées, les classes exploitées, etc. Bon, moi j'ai été membre du Parti communiste, c'est de la routine pour moi. J'étais anticommuniste, mais par contre, diagnostiquer dans les classes supérieures une angoisse, un vide et des attitudes irrationnelles, c'est autre chose. Vous voyez, la vraie terreur, si vous mettez dans une posture, waouh, à l'Élysée, en haut, les gens comme le fric, c'est tous des salauds. Bon, vous mettez en évidence quelque chose qui n'est pas bien moralement, mais vous créez une représentation qui est rassurante. Parce que la vraie peur, c'est de se dire qu'il n'y a personne dans l'avion. Ou même que dans l'avion, il y a un pilote suicidaire. Ça, c'est l'angoisse. Hein? Et c'est un peu ce qu'on a. Alors maintenant, j'en viens à la partie positive de mon exposé, de mon exposé fondamentalement historique, et qui va nous amener au mot, la partie positive est liée au mot apocalypse. Alors, je dois dire que j'ai été converti à l'usage du mot apocalypse. Au début, je n'étais pas trop chaud, ça avait, est-ce que vous voyez qui est Peter Thiel, hein? C'est l'un des oligarques de la Silicon Valley, qui est maintenant, qui apparaît partout comme une sorte de personnage satanique, peut-être Satan lui-même, ayant financé toutes les horreurs idéologiques qui tournent autour de Trump, et qui avait, dans une interview au Financial Times, parlé d'une apocalypse au sens de révélation. Révélation d'une vérité qui était cachée. Et il y avait aussi le mot de réconciliation. Hein. Et après, voilà. Alors, ce qu'il évoquait, c'était des décès suspects dans des prisons, le rôle des universités. En fait, il est clair que le concept d'apocalypse, révélation, quand on regarde ce que sont les États-Unis et les luttes aux États-Unis sous Trump, est pleinement applicable. C'est l'apocalypse là-bas. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça part dans toutes les directions. J'ai de plus en plus l'impression que les Trump ont une préférence pour les guerres civiles plutôt que pour les guerres internationales. Mais il s'agit bien d'apocalypse. Alors, le problème, au début, j'étais pas trop chaud, mais je démarrais avec le verre était dans le fruit, puisqu'en fait, j'avais eu l'occasion de discuter avec Thiel. J'avais contacté, on a fait une vidéo en ligne, et puis j'avais vu pour discuter avec lui 3 heures au Georges V avant de faire mon livre. Alors, et en fait, le député m'a dit, obligé à dire, je l'avais trouvé extrêmement sympa, plein d'humour et bien élevé. La première fois, vous qui me voyez là, moi j'ai posé un lapin à un milliardaire. D'ailleurs, au seul milliardaire que je connaisse. Et il l'avait très bien pris. Il m'a dit, bon, pas de problème, on se voit demain même heure. Et on avait bien volé. Puis c'est un type qui a de l'humour. On a fait ensemble l'analyse ethno-religieuse de l'administration de l'administration Biden. J'avais eu l'occasion, après les émeutes suivant la première non-réélection de Trump, d'échanger quelques mails avec lui où il avait paru très raisonnable. Et donc, alors je ne sais pas comment traiter cette impression favorable. Il y aurait le truc, je crois que c'est de Sacha Guitry, méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Mais il y a aussi l'idée que dans les contes médiévaux, le diable est toujours séduisant. Peut-être c'est plus ça. Mais du coup, j'ai réussi à me fixer sur le concept d'apocalypse que je trouve de plus en plus génial. Vraiment ? Alors, je diffère avec Thiel. J'ai plus de contact avec lui. Je veux dire, je vous rassure tout de suite, je ne fais pas partie de l'écurie. Et je suis... je vomis Trump et tout, là, maintenant. Mais... mon désaccord avec Thiel est sur la cause de l'apocalypse, de la révélation. Pour lui, c'est la modernité Internet, les valeurs libertariennes. Pour moi, les valeurs libertariennes, c'est tout ce qui a foutu l'Amérique en l'air et qui fait qu'elle n'a aucune chance de se relever. Hein? Pour moi, l'apocalypse, la cause de l'apocalypse, c'est la défaite américaine en Ukraine. C'est un système pas tellement moderne. Dans ces concepts, le régime Poutine, un peu dur avec ses oligarques, on n'ose pas imaginer ce que serait le destin de Bolloré en Russie. Je veux dire, on lui souhaiterait de survivre sans pouvoir. Mais à part ça, le mix économique, c'est l'économie de marché, liberté de circulation, sortir du territoire. Rôle directeur de l'État dans l'économie, obsession de la souveraineté nationale, c'est un mot qui me rend sens ici. En gros, c'est le mix de la France, sur le plan économique, c'est la France des Trente Glorieuses, le modèle russe actuellement. Et sur le plan politique, c'est un gaullisme un peu violent. Très violent même. Et c'est ce système sur lequel l'ultralibéralisme en expansion est venu buter. Et c'est cet échec face à ce système finalement assez traditionnel, avec des Russes qui pensent, eux, être toujours une nation. Hein. Alors, eux, ils ne sont pas du tout dans le dépassement de la nation, sur lequel s'est craché toutes les idéologies mondialistes dans la version américaine impériale, dans la version européenne pseudo-pacifiste. Et l'apocalypse, pour moi, c'est le moment où on s'est rendu compte que la Russie, dont le produit intérieur brut représentait 3% du produit intérieur brut occidental,
avec la Biélorussie,
c'est-à-dire Europe, États-Unis, Canada, Japon, Corée, Taïwan, mêlés, que ce 3% arrivait à produire plus d'armes que l'Occident, et était en train de mettre à genoux cet Occident triomphant avec cette vision extraordinaire de lui-même. Alors, c'est important en soi pour comprendre le résultat de la guerre, mais c'est apocalyptique en ce sens que ça nous révèle que tout le discours sur l'économie financiarisée, tout le discours sur nos indicateurs économiques, tout est bidon. Je veux dire, s'il y a des éléments, il y a un choc de réalité là-dedans. Et c'est un véritable enseignement historique. Sur les gens d'en haut nous ont couillonnés. Ils ont réussi à couillonner. La soirée avance et mon vocabulaire se détériore. Il n'y a pas de problème. Ils ont couillonné. Ils sont arrivés à une situation de puissance en interne. Mais le problème de ces systèmes, c'est le choc avec les systèmes externes. Parce que quand on a fait une histoire et une anthropologie, ils sont rigolos, les libéraux individualistes. Ils pensent en termes de compétition entre individus. Mais la vraie compétition est entre systèmes. Et donc, si vous maîtrisez un système ultra-individualiste qui se décompose de l'intérieur, vous allez vous heurter à l'extérieur des systèmes extérieurs beaucoup plus traditionnels qui vous foutent une pâtée. Hein? Et donc, vous avez choc de réalité. Et je crois, la véritable apocalypse. Alors, on sent très bien la tension qui monte. Alors, pour les États-Unis, je crois que le choc de la réalité a eu lieu et le sentiment d'une défaite est intériorisé. Les gens qui ont vu J.D. Vance, les Américains savent qu'ils ont perdu. Le Pentagone sait que ses arsenaux seront vides. Il n'y a pas de problème. Et la révolution Trump, c'est un résultat, ou l'apocalypse Trump, maintenant mon vocabulaire évolue, c'est le résultat de ce choc de réalité. C'est ça, l'apocalypse. En Europe, on n'en est pas là, parce que comme les Européens ont été manipulés d'un bout à l'autre de la guerre, comme ils n'ont pas fait les plans du Pentagone, comme ils ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître les États, moi je les connais, donc ils pourraient y arriver hein, si vous voulez travailler. Honnêtement, je travaille tout seul, il n'y a qu'à lire les rapports de la Rand Corporation, c'est pas bien, ils ne veulent pas. La fuite de la réalité, c'est un métier. Hein. Et ils ne savent pas, et donc les Européens, eux, sont psychologiquement avant la défaite, c'est-à-dire avant la révélation, avant l'apocalypse. On l'a devant nous, on sent que ça vient. Alors, comme ils n'ont pas compris l'étendue de la défaite, ils font les clowns à Kiev, et ils veulent gagner la guerre sans les Américains, ils veulent gagner la guerre qu'ils ont perdue avec les Américains. Ça donne du niveau intellectuel des types, quand même. C'est quand même exceptionnel. Vraiment, bon. Mais ça pourrait se faire à une condition très inquiétante sur laquelle je conclurai. Mais les choses évoluent et on sent la tension qui monte. Et il faut bien voir que toutes les attaques contre la démocratie, ça me gêne de le dire, mais celle-là même qu'a dénoncé J.D. Vance, parlant de la Roumanie, ou ce qu'on a pu dire sur l'AFD, c'est pas tellement que l'AFD ait été allemande, était classée comme organisation d'extrême droite. C'est que le classement a été fait par les services de renseignement. Ça veut dire que les services de renseignement agissent maintenant dans le système politique allemand. On est très rassuré à l'idée que ça soit pour la défense de la liberté. On se sent toujours mieux quand on voit les services secrets défendre la liberté. Hein, je ne sais pas comment vous vivez ça, moi je ne le vis pas bien. Alors, Marine Le Pen, l'interdiction, c'est aussi, donc on sent une situation qui sort, il y a une sorte de subconscience ou de semi-conscience qui monte de l'approche de l'apocalypse, mais on n'y est pas encore, on approche, et je pense qu'on va être dans cette Europe paralysée, on va être confronté à l'ultime réalité, notre apocalypse, qui est en cours aux États-Unis, commencera après l'écrasement de l'armée ukrainienne. C'est pas forcément dans très longtemps. Il y a une offensive russe qui est sans doute en train de commencer pour l'été. Ça peut être un peu plus longtemps, mais on va devenir... Je parle des conséquences éventuelles pour l'état des rapports de force politique en France ou idéologique. Je suis en train de dire qu'on dépend, en fait, de ce qui se passe dans les plaines d'Ukraine. Mais là, je suis un historien banal. Les révolutions découlent très souvent des défaites militaires. Hein, c'est sûr, c'est une banalité. C'est pas la révolution russe, la révolution allemande. Même la révolution française, c'était pas si longtemps après la défaite, de la guerre de 7 ans. Donc, c'est là que ça devient important pour des gens qui font de la politique. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis un retraité. Je me contente d'analyser l'histoire dans un style désintéressé et ironique, pour ne pas dire pire. Mais ce qu'on a devant nous, j'avais commencé sur l'incapacité des gens comme nous à faire passer des idées simples et raisonnables sur la nécessité pour l'État de prendre le contrôle de l'économie, d'avoir une politique globale et d'accepter l'idée que le peuple français existe. En fait, moi, je suis anthropologue, moi, je pense vraiment que le peuple français existe et qu'on ne peut pas l'abolir par des traités. Donc, mais on a échoué à faire ça. Mais ce qu'on a devant nous et ce qui a commencé aux États-Unis et ce qui rend les élites européennes tellement furieuses, c'est l'effondrement du système de croyance ultralibérale, du système de croyance post-national. C'est ça le sens de Trump. Moi, je pense qu'il va se casser la gueule. Mais il essaie. Et ce qu'il dit, c'est, ben non, la nation, ça doit exister. La mienne, les États-Unis, c'est la plus grosse, la plus forte. Vous voyez le truc. Hein, ça, c'est pas à notre portée. Hein. On l'aurait fait au XVIIIe siècle, mais plus maintenant. Et ce qu'on a devant nous, c'est l'effondrement, pas simplement des conceptions économiques, de la croyance au libre-échange, de la croyance à l'inévitabilité de la liberté de circulation du capital, du caractère éternel de la monnaie unique et de la Banque centrale européenne. Ce qu'on a devant nous, c'est pas simplement la dissolution de tout ça, mais l'idée, l'acceptation ou le retour de l'idée que les nations existent. À la limite, la poussée allemande à l'intérieur de l'Europe risque d'accélérer cette prise de conscience. Je dirais que la montée en puissance de l'Allemagne, qui semble se décider à réarmer et qui va certainement rassurer tous ses voisins en devenant la puissance militaire numéro un du continent, ça va être l'illustration du retour à l'idée de nation, même si c'est en théorie pour défendre des vieilles idées opposées à ça. Donc, comment dire, il faut être prêt à ça. Alors, il y a une autre chose à laquelle il faut être prêt, c'est que le clivage élitisme, populisme, destruction de la démocratie par les catégories supérieures éduquées, c'est un universel des pays avancés. C'est plus ou moins avancé. Plus ou moins intense selon les pays. Des pays comme l'Italie ou l'Allemagne ont moins d'éduqués supérieurs. Donc ils gardent un peu plus d'ouvriers et de gens qui produisent des trucs. Et maintenant, leur industrie, même l'industrie italienne, est plus importante que l'industrie française. Mais il faut bien voir que là, on a eu très récemment beaucoup de discours sur une internationale des populismes. Hein? Donc tout le monde supposait que Trump, Orban, Poutine, le Rassemblement National, l'AFD, tout ça c'était la même chose. Si vous regardez les sondages post-électoraux, les sorties des urnes, oui, il y a un point commun. C'est toujours les catégories sociales inférieures. Bonsoir. Pardon ? J'ai entendu quelque chose ou...
Nous aussi, mais on ne sait pas quoi.
C'est moi-même qui me suis fait peur. Voilà. Si mon discours est intolérable pour moi-même aussi, alors là, c'est vraiment... Et il me reste combien de temps ? Je suis très avancé, là.
Prenez votre temps.
Bon, oui, c'est vrai, personne n'est sorti violemment. Donc je peux y aller. Voilà, j'ai travaillé, donc je tiens à montrer que j'ai travaillé. Je me suis donné beaucoup de mal. Alors, donc il y a cette idée d'une internationale des populismes qui, en un sens, en un mot traditionnel, peut se comprendre. C'est-à-dire, les gens qui veulent se débarrasser de l'idéologie post-nationale, soit dans sa version impériale américaine, soit dans sa version sous-impériale, dominée européenne, tous les gens qui sont dans un état d'esprit printemps des peuples sont solidaires. Mais bien entendu, c'est transitionnel. Ensuite, ce qui va apparaître, c'est la diversité de toutes ces nations. C'est le principe des nations, c'est qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Moi, je vois en tant qu'anthropologue, par une diversité de systèmes familiaux, de tempéraments idéologiques, et au-delà même des intérêts divergents, les nations ont réapparu, chacune a ses intérêts, les systèmes de valeurs et les systèmes politiques qui vont sortir vont être différents. Pour les États-Unis, je suis d'un pessimisme radical. Je suis absolument convaincu que la cystère, la famille du bien absolu, l'absence de religion, la chute du niveau éducatif accéléré, ils sont partis pour je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas être joli joli. Pour le Royaume-Uni, je préfère même pas en parler. Pour l'Allemagne, j'ai fait une interview dans une revue suisse qui logiquement devrait me faire mettre à l'index par ses services de renseignement allemands. Dans lequel j'ai dit oui, l'Allemagne, il y a l'AfD qui est contre les gens qui sont au pouvoir, mais il y a le tempérament allemand quand même, ce sont des gens sérieux, ils font tout à fond. Moi, je ferais volontiers une prédiction de fascisation pour l'Allemagne dans les années qui viennent. Mais avec un doute, est-ce que ça viendra de l'AFD ou des gens qui luttent contre l'AFD? Parce que c'était dans l'interview, je suis tout à fait capable d'imaginer une Allemagne tellement attachée à la démocratie que ses élites libérales mettent les gens d'extrême droite dans des camps de concentration. J'en ai une pire que je ne ferai pas. Si vous ajoutez l'orientation belliciste de Merz, et alors on vous dit des trucs sur l'Allemagne, on vous dit « Oui, mais c'est un régime, ils négocient leur coalition, c'est très équilibré, c'est pas comme chez nous, etc. » Nous, on a un président qui a entièrement été le pouvoir et qui n'en a plus aucun. Si j'ai bien compris, le dernier pouvoir du président Macron, c'est de se faire tarter par sa femme. La vérité, on a les plaisirs qu'on peut. La vérité du système allemand, c'est que quand on l'a vu agir ces dernières années, on a vu qu'il n'était pas du tout équilibré. Le chancelier prend des décisions tout seul. Merkel a décidé la fermeture du nucléaire. Ah non, tu fais des signes là. Hein.
Non, je fais des signes.
Pour qui coupe? Et je veux dire, l'ouverture à l'immigration, décision de Merkel. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout s'imaginer que si Friedrich Merz dit qu'en fait ça serait une bonne idée d'aider les Ukrainiens à bombarder Moscou. Je ne vois pas du tout dans ce système où se manifeste à tous les niveaux de la société un certain plaisir de l'obéissance, c'est la famille souche, pour que ça ne se fasse pas. Donc il y a vraiment une Allemagne qui sera l'Allemagne. Je vais terminer sur la France, qui est quand même notre pays, et qui est différente. Et sur lequel je vais me permettre d'exprimer des préférences de citoyens, puisqu'ici je ne suis pas analyste, je suis comme tout le monde, même si j'ai voté oui en 2005. C'était jamais trop tard pour bien faire. Donc, on va comme ailleurs vers une apocalypse d'un type ou d'un autre, vers une révélation de la vérité. Cette révélation de la vérité, pour moi, ne va pas être simplement quelque chose qui mettra en question les idéologies ultralibérales. Je préfère dire ultralibérales parce que ça va au-delà du libéralisme. Quand ça fabrique tellement de, ça met tellement de gens dans les prisons, j'ai du mal à appeler ça néolibéralisme. Ça va être quelque chose qui va entraîner l'effondrement de toutes sortes d'idéologies associées. Je veux dire, bonne ou mauvaise d'ailleurs, LGBT, je ne suis pas sur la ligne Poutine, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a un mix d'idéologies associées qui va être entraîné dans la chute du noyau économique central de l'idéologie des pays occidentaux qui étaient considérés comme généralement avancé. Je pense, entre autres, que cette cette dissolution des croyances va conduire, je pense que ça va amener les classes supérieures au bout de leur nihilisme, au bout de leur... Ils sont partis en voulant se déposséder du pouvoir, et en profitant matériellement, ils sont maintenant confrontés à la vaporisation de leurs croyances. Ces gens qui vont perdre leur religion, c'est terrible. Moi, je suis plein de compassion. Vraiment, c'est affreux. Mais quand je parle d'une révélation, d'une apocalypse et d'un bouleversement des idéologies, il ne faut pas s'arrêter là. Ça va être vrai pour le Rassemblement national. Ça va être vrai pour LFI. Là, ils sont installés face à face. Ils ne sont pas la même taille. Mais ils sont chacun. Il y a un gros bureau de tabac et un petit bureau de tabac. Hein ? Et donc, c'est structuré par le rapport à l'islam ou à l'immigration. Je n'ai pas dit que l'immigration n'était pas un problème. J'ai dit que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par lui-même. Je pense que c'est un problème qu'on peut résoudre par la relance de l'activité économique, parce que l'intégration se fait par l'intégration de la machine économique. Et je pense que la politique économique positive, active, doit l'emporter sur tout. Donc, le Rassemblement national des LFI, que j'ai toujours soupçonné de se contrefoutre de l'atteinte du pouvoir, d'être tellement content d'être installé dans le rôle de je ne sais quoi, ben, dans la situation qui se présente, ben, leurs idéologies ici seront mises en question. Et je pense qu'on va avoir, on va vers... Je devrais... Là, je me dis que je devrais avoir une casquette spécialement faite à mon image. Je mettrais ma casquette prophète. Qui voudrait dire, attention, je vais raconter n'importe quoi. C'est que on va avoir ce que j'appellerais un moment souverainiste. C'est-à-dire un moment où la question de la souveraineté nationale va être posée. Elle ne va pas être posée parce que, ça me gêne de le dire ici, mais je suis comme vous, hein, je n'ai pas trop réussi dans mes propositions, mais qui va intervenir parce que la croyance des classes supérieures va s'autodétruire. Aux États-Unis, d'ailleurs, la victoire de Trump, c'est beaucoup l'effondrement de la croyance intérieure du Parti démocrate. L'absence de réaction, c'est qu'ils n'ont plus personne en face d'eux. C'est ça qui décompose le système. Donc on va avoir un moment où de vide, où toutes les cartes vont être rebattues, où tout va être discuté, où des choses vont sortir, être en opposition, et bien entendu, quelque chose va cristalliser. Je veux dire, une forme dominante du souverainisme va cristalliser. Et c'est là que j'ai une inquiétude et un espoir. C'est-à-dire qu'actuellement, quand même, ce qui est frappant, ce que j'ai noté toujours, c'est une tendance des souverainismes à être pris par une sorte de biais, de pente qui les mène toujours à se fixer, je le dis sans le démontrer, mais empiriquement, sur la question de l'islam. C'est-à-dire que ne fais pas des gros sourcils, c'est ce qui sort, toujours c'est ça, et avec... qui a abouti d'ailleurs à la perversion du sens de quelques très beaux mots. Je veux dire, maintenant, le mot laïcité veut dire islamophobe. Le mot république, même. Si on parle trop de république, c'est que... On sait très bien, c'est codé. Moi, je suis un bon républicain, ça ne me gênerait pas de dire que je suis républicain. Et encore. Et donc, c'est une question cruciale, parce que si... dans ce moment de cristallisation, s'il s'agit de, excusez-moi de dire ce dont je rêve, de sauver la France, plutôt que la République, il va falloir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. Et je vois des gens qui, à la suite des très belles études de Fourquet sur les prénoms d'origine musulmane, nous disent 20% de naissance de gosses portant des prénoms arabo-musulmans, c'est pas possible, le problème, c'est l'islam. Ouais, mais c'est fait, hein. Donc, moi aussi, j'ai été un assimilationniste, reine assimilateur exigeant des mariages endogames dès la deuxième génération, exogame dès la deuxième génération dans toutes les familles. Mais là, je suis désolé, c'est juste trop tard. Je veux dire, si on veut une France capable de se restructurer industriellement, de se retrouver en tant que groupe solidaire face au monde extérieur, et ben, il va falloir avoir à accepter le fait qu'il y aura au minimum 20% de Français d'origine musulmane. Je reconnais, je suis un peu partisan là-dessus, parce que 3 de mes 9 petits-enfants ont un père algérien, et je ne vois pas du tout le problème. Donc je ne parle pas complètement en l'air, et je pense que le niveau de fusion ou d'interaction des gens d'origine musulmane avec la société française plus lointaine est totalement sous-estimé par ces enquêtes qui se fixent simplement sur des noms. Mais je ne nie pas l'existence d'un problème. Je veux dire, et simplement, si on veut se projeter dans le futur d'une France unitaire et capable de souveraineté, il va falloir faire avec. Les laïcs et les catholiques ont réussi à être solidaires en 1914-1918 à la fin. C'était pas la même culture. Les catholiques avaient une fécondité ignoblement élevée. Vous voyez, c'était vraiment bizarre et différent. Et bien, on fait avec. Et il va y avoir, donc je pense qu'il va y avoir un choix. Là, j'essaie de le placer, mais je le fais quand même, mais ça ne marche pas du tout. Il va falloir aussi ne pas rejeter les vieux, cette haute immigration. La France souveraine du futur, tout en étant consciente du fait que le problème des retraites n'est pas le seul problème de la France, et peut-être pas le premier, va devoir accepter de ne pas se débarrasser de ses vieux par une hausse de la mortalité trop violente. Je suis très intéressé par cet aspect de la question. Donc il va falloir s'habituer aux deux immigrations. Celle des vieux, intérieurs, qui n'est pas contrôlable, et l'autre qui est plus contrôlable, etc. Ça donne cette France qui accepterait sa nouveauté et qui évoluerait dans le temps. C'est ce que j'appelle, et je m'y cours en fait, souverainisme inclusif. C'est un concept sur lequel je tiens beaucoup, et ça s'oppose pour moi très clairement à un souverainisme qui ne précise pas, parce que les autres souverainismes tendent le plus souvent vers une perception des choses, le retour à une France passée exclusive, délirant sur ses racines chrétiennes et ces choses-là. Donc, on va avoir ce genre de choix devant nous. Ça ne va pas être un choix pour simplement un parti politique, pas simplement pour vous, même si vous êtes quand même bien placé pour affronter ce problème. Ça va être un choix pour toute la société, dans une phase de dissolution de toutes les croyances. Il va y avoir un moment d'ouverture où des idées nouvelles, pourront faire passer. Donc soit l'idée, pour moi, c'est très simple. Là, je vais faire le prophète de l'Ancien Testament. Le rêve de tout petit garçon juif. Ça sera soit le souverainisme inclusif, soit la désintégration à la pauvreté. Je vous remercie.